Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 6. Noir, c'est noir, il y a tellement d'espoir. Chers amis, bonjour. Vous vous souvenez quand il a dit « Je cours plus vite que lui ». Il était très fort dans la dérision pour se moquer des racistes. Il racontait toujours comme ça. « On m'a dit qu'il y a un noir qui s'est glissé dans la salle. Oh non, mais il peut rester. » Non, c'est pas Pierre Desproges, mais vous l'avez bien connu. Il disait aussi « Pourquoi les bons footballeurs, c'est tous des noirs et qu'il n'y a pas un seul noir dans le Tour de France ?» Alors je me souviens quand il m'a dit « Je suis homosexuel, juif, noir, alors ça se voyait, handicapé, ça se voyait aussi puisqu'il était dans son fauteuil roulant, et je me suis dit « Toi, mon vieux, tu exagères un peu, tout ça c'est pour remplir les quotas et passer à la télé. » Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? En plus, je suis brésilienne et coiffeuse. Alors, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les coiffeuses ? Alors, Myriam Nice, justement, vous êtes coiffeuse. Vous venez d'ouvrir un salon à Strasbourg. Pourquoi les coiffeuses, la discrimination envers les coiffeuses ?
Eh bien, je ne saurais pas vous dire à quand remonte ce type de discrimination. Mais effectivement, ces dernières années surtout, les coiffeurs, les coiffeuses se sentent un petit peu mis à l'écart. Peut-être un certain laisser-aller qui fait que les gens ne sont plus très intéressés par leur apparence, j'en sais rien. Mais en tout cas, on rit des coiffeurs, on dit « mais bon, Pourquoi chez le coiffeur ? Qu'est-ce que, si ça se trouve, tu seras de nouveau décoiffé une heure après ?» Bref, le coiffeur n'a plus le vent en poupe.
Oui, alors si la coiffeuse est noire en plus, je ne sais pas si...
Ceci pourrait expliquer, il y a
aussi le Merlan, hein, le Figaro... On peut demander à David Gondard. Alors, il a sa boutique à côté de chez vous, puisqu'il est tatoueur.
Hein. Et, ne m'en parlez pas.
Ouais. Ah bon ? Ben, oui, parce que Gondard, c'est l'anagramme de...
Le dragon, bien entendu.
Oui. Alors, c'est un faux nom, Gondard.
Oui, bien sûr. Mon vrai nom, c'est Dragon.
C'est Dragon.
Tout à fait. Mmh. Oui, tatoueur, voisin d'une coiffeuse qui ne comprend jamais ma blague. Quand je dis « Eh, ça va ?» Elle me dit « Quoi ?» Je dis « Fort ?» Elle ne comprend pas.
Ça va fort.
Sommes-nous censés vraiment nous esclaffer ?
Oui, mais la vraie question quand même, c'est est-ce qu'on peut être tout à la fois ?
Moi, je pense qu'en fait, le problème du tatoueur, c'est qu'il a, c'est vrai qu'il nous a, pris pas mal de parts de marché, à nous les coiffeurs coiffeuses, et qu'aujourd'hui, on préfère se barbouiller le corps plutôt que de se coiffer correctement.
Oui, c'est-à-dire qu'on se rase le crâne pour pouvoir se tatouer entre les deux oreilles.
Pas que le crâne.
Pas que le crâne. Oui, parce que alors, du coup, on a un crâne d'œuf. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que, comme une image, il est chercheur, alors à la fac de Strasbourg aussi, il est chercheur en œuf.
C'est exact.
Voilà. Alors, il y a les œufs durs, il y a les œufs mous. Alors, ce qui est d'abord aussi une discrimination entre les œufs durs et les œufs mous, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de racisme anti-œufs durs pour, il y a les mimolets aussi. Et...
Toutes ces déclinaisons des œufs, en fait, elles partent d'une propriété qui est très méconnue de ces œufs, c'est qu'on considère ça comme un tout, on oublie qu'il y a deux éléments, et ces deux éléments à l'intérieur, il y en a un blanc, il y en a un jaune, ils sont très différents, et ils ont également des propriétés différentes, c'est-à-dire que le blanc peut être dur, et le jaune peut être mou, et tout ça, c'est une question de température.
Alors, on dit 3 minutes pour cuire un œuf dur, mais j'ai lu, alors je crois que c'est Larenière, un grand gastronome du 19e siècle, qui disait qu'il fallait cuire un œuf pendant une heure à 68 degrés et le jaune était toujours mou, ce qui permettait de faire des petites mouillettes, de tremper dedans.
Exactement.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ?
Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que le jaune et le blanc, eh bien, ils ne vont pas durcir à la même température. Et à 68 degrés, le jaune ne deviendra jamais dur. Alors que le blanc, il va devenir dur. Ce qui fait qu'on peut étendre cette température aussi longtemps qu'on le souhaite. Le jaune, jamais n'aura atteint sa température à laquelle il va se solidifier. Et donc, on peut faire un œuf à la coque en 5 minutes, en 8, en 12, en 15 et en 1 heure.
Voilà. Alors, justement, on parle de ce personnage qui est noir. On le connaît tous bien à Strasbourg, vous l'avez bien connu. Mais c'est un drôle de personnage parce que j'ai oublié de dire avant, je vous répète, je reprends mes feuilles, il était homosexuel, juif, noir, handicapé en fauteuil roulant, mais il est aussi aveugle. Et Alicia Roselier, votre métier, c'est liseuse. Vous lisez des romans pour les aveugles. C'est chouette, ça, comme boulot, comme passion.
En effet, j'aime beaucoup mon travail et j'aime me balader dans la ville avec un livre. Alors, parfois, c'est de la littérature classique, parfois, c'est de la littérature fantasy. Et j'aime lire ces histoires. Alors, ça peut commencer, je peux lire le début de l'histoire, je peux lire un milieu d'histoire ou encore juste la fin. Et j'aime me balader donc dans les rues, à la gare, et puis aborder les gens en leur demandant s'ils ont quelques minutes pour juste écouter cette histoire que je vais leur raconter.
Ah, c'est formidable ça. Et donc c'est un peu déstructurant puisque vous lisez n'importe quel passage. Les gens ne connaissent pas le début et ils auront peut-être envie de connaître la suite, mais...
En effet, des fois, ils n'ont pas tous les éléments pour comprendre l'entièreté de l'histoire, mais parfois, dans leur journée, à la suite de leur journée, ils peuvent s'y référer de temps en temps, comme « Ah oui, dans cette histoire, le héros, il fait ci, il fait ça, et est-ce que moi, à ce moment-là, dans cette situation de l'histoire, est-ce que je réagis... à la même, comme lui ou différemment, ou encore une situation où le protagoniste se trouve dans un café et dans l'histoire il commande un café frappé par exemple, et est-ce que lui, aux personnes auxquelles j'aurais raconté cette histoire, est-ce que à ce moment-là ils se retrouveront dans un café et est-ce que ils repenseront à ce moment de l'histoire que je leur aurais raconté. Et c'est intéressant et c'est un peu comme planter une graine qui pourra germer au fur et à mesure de leur journée, de leur vie, sur une période.
Formidable. Mais on dit toujours que, aux enfants, on leur dit « Votre meilleur ami, c'est un livre ». Mais on peut le dire aussi à toutes les personnes, parce que quand on est enfant, on se sent souvent un peu isolé, je ne veux pas dire discriminé, mais on se sent différent des autres. Pour les adultes aussi, donc quand on est, tout ce que j'ai dit avant, le meilleur ami, c'est un livre, c'est vraiment un refuge, c'est vraiment quelque chose de personnel, où est-ce qu'on partage, ce que les gens disent « Ah, mais on m'en a déjà parlé, je l'ai déjà lu. »
Un livre, c'est à la fois personnel et quelque chose qu'on peut partager. C'est un objet très beau que l'on peut partager avec des gens. Et on peut aussi également partager les opinions. Et les opinions, c'est très étonnant et... marrant entre guillemets, parce que les opinions peuvent différer. Par exemple, je prête mon livre préféré à mon ami et mon ami va justement, après l'avoir lu, détester ce livre. Et donc c'est aussi très intéressant de discuter.
Il va rester votre ami à ce moment-là ?
Bien sûr, oui. C'est pas avec des opinions différentes sur un livre qui va forcément beaucoup...
Est-ce qu'on lit beaucoup chez la coiffeuse?
J'allais dire justement, dans un salon de coiffure, c'est un endroit de lecture. Et d'ailleurs, ce serait tout à fait intéressant que quelqu'un comme vous vienne lire pendant que les gens attendent leur tour au shampoing, des shampoings aux œufs, je précise, pour revenir un peu dans le sujet.
Et aux œufs frais.
Et également, voilà, et que quelqu'un vienne lire. Et puis bon, effectivement, on a des magazines, mais non, moi j'ai un salon de coiffure qui est particulièrement bien achalandé en littérature, 18e siècle, 19e siècle. C'est un salon de coiffure qui vaut le détour. Je ne suis pas sûre que chez le tatoueur, il y ait tout à fait ce genre de littérature.
Pourtant, chez le tatoueur, on est couché sur le ventre, on attend que... j'imagine. Est-ce qu'on lit pendant ce temps ou ça fait trop mal?
Non, on est plutôt des durs à cuire. Donc ce qu'on préfère, c'est les œufs. Mmh. On laisse un peu la lecture de côté et on mange.
Oui, mais il y a d'autres choses quand même. Je ne sais pas, dans une boutique de tatouage, on parle quand même avec son client.
Oui, on échange beaucoup, on parle un petit peu de la coiffeuse aussi, bien entendu, de ses livres de littérature du 17e siècle. Nous, on est plus simple.
Oui, mais alors, je suis quand même un petit peu, moi, j'aime pas les tatouages. Et je vais dire vraiment, pour une seule raison, j'ai un frère de ma grand-mère, qui est allemand, mais qui a fait Dachau et d'autres camps, et lui, il avait un tatouage. Et donc, du coup, le tatouage, moi, je trouve que c'est une référence qui me m'horripile, et donc... alors, il y en a un autre qui est plus rigolo, c'est les bagnards qui se faisaient un pointillé le long du cou, pour dire à la guillotine, c'est là qu'il faut viser. Mais vous-même, je vois, vous n'êtes absolument pas tatoué. Vous n'avez aucun tatouage et vous le faites aux autres. Bon, c'est une façon de gagner sa vie, mais est-ce que ce n'est pas dans la contradiction de l'homme, comme chez les poètes, de faire quelque chose et puis de vivre de façon tout à fait différente?
Vous avez très mal observé. Je suis entièrement tatoué. J'étais noir au départ.
Ah, et vous êtes tatoué en blanc?
Exactement.
Voilà. Alors, moi, j'ai une personne que j'adore, c'est ma fille, et j'ai pris les devants, je lui ai dit, jamais je ne te donnerai l'autorisation de te tatouer. Bien sûr qu'elle ne me demandera pas, mais elle ne l'a pas fait. Et alors, je me suis dit, il faut quand même que je lui dise, et écoutez bien, chers auditeurs de la radio, si vos enfants veulent se faire tatouer, voici le truc. Vous leur dites, oui, tu peux te faire tatouer, mais à un seul endroit, surtout pour les filles. Sous les bras, vous vous tatouez des poils, sous, là où on se rase, là, vous voyez, hein, vous vous tatouez des poils, là, sous le bras. Donc là, effectivement, en plus, ça doit chatouiller, ça doit faire mal. Donc là, oui, parce que a priori, ça ne se voit pas. Mais autrement, non, parce que c'est... Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est irrémédiable. C'est pour la vie, c'est pour toujours.
C'est comme un souvenir.
C'est comme un souvenir.
Ah oui, on les porte en nous, oui. Et on les garde, ils nous définissent. Et un tatouage, pour nombreuses personnes, c'est également un souvenir qu'on garde pas seulement dans la tête, mais qu'on garde également sur la peau, qu'on peut partager, qu'on peut montrer ou pas, qu'on peut garder comme un secret.
Oui.
Et puis se tatouer les poils, ça permet de faire cuire des œufs.
Oui, bah oui, parce que dans la poêle, alors il y a des poils où on n'est même pas obligé de mettre de graisse pour faire les œufs au plat. Mais moi je voulais demander donc à Com une image. Est-ce que vous avez écrit des livres de recettes de cuisine? Parce que dans l'édition, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Ça, c'est les bretelles, les choses comme ça. Un livre de recettes de cuisine, il faut demander à notre grande amie Simone Morgenthaler. Elle fait un bouquin de cuisine alsacienne, ça marche. Alors, un livre de cuisine sur comment aller se faire cuire un œuf. Est-ce que ça pourrait marcher?
Sans aucun doute. Je pense même que ce serait d'une grande utilité. Mais je n'ai pas l'âme de l'écrivain, j'ai plutôt l'âme du critique, car comme vous l'avez dit, je suis un chercheur en œufs, c'est-à-dire que j'analyse et j'étudie les œufs, mais ce n'est pas moi qui vais apprendre à les cuisiner, je vais plutôt avoir mon regard sur, je pense que celle-ci de recette n'est pas suffisamment chaude, ou bien celle-ci le cuit mal, et voilà.
Moi je trouve que vous faites un métier fascinant, passionnant, parce que Bien sûr, on va se dire, qu'était là en premier, l'œuf ou la poule? Bon, déjà, c'est une question métaphysique, hein. Mm-hmm. Il faut y répondre. Et puis, il y a le fameux livre « L'œuf et moi », hein, je crois, de Maurier. Voilà. Mais aussi, l'œuf, c'est la nourriture qui permet, je crois, de survivre. On fait de l'œuf dans des tubes, comme de la mayonnaise, on fait de l'œuf séché.
Il y a une raison au fait que l'œuf soit devenu aussi prépondérant dans toute notre culture. C'est que plus on remonte dans le temps, plus on trouve d'œufs. Parce que plus on remonte dans le temps, plus les animaux ressemblent à des dinosaures, et c'est bien connu, les dinosaures, ils pondent des œufs. Ce qui fait qu'en fait, l'œuf, ça a été la nourriture de base d'une partie majoritaire de tous les animaux qui ont vécu sur cette planète. Et on n'y fait pas exception. C'est donc pour ça que l'œuf témoigne d'un tel empire actuellement. C'est vraiment parce que c'est historiquement, c'est la base et la fondation de notre société.
Alors, je vais demander à Alicia Roselier, est-ce que vous avez déjà lu à haute voix les livres de Georges Perec ? La disparition, par exemple, qui est un livre formidable, qui a été écrit...
Que nous avons au salon, je vous invite à lire.
Ah oui.
Oui, le livre sans E.
Sans E, voilà. C'est la contrainte, la voyelle E est la voyelle la plus courante de la langue française, et il a réussi à écrire La disparition. Après, il fera Les revenantes, en trichant un peu, en mettant des E partout, et que des E.
Et des coquilles.
Et des coquilles. Oui, il y a quelques coquilles dans le texte, mais bon, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, et pour revenir à ce que disait Combe, c'est que Perec, alors les Lacaniens ou les autres, ont trouvé que dans son nom, il y avait deux œufs. Perec. D'ailleurs, il y a une plaque de rue où ils ont très astucieusement enlevé les E, donc c'est P, R, C. Mais l'œuf. Le dessin de l'œuf, c'est une espèce de d'œuf. Hein. Enfin, il y a le côté foetus dedans. Mm-hmm. Donc, c'est une recherche aussi de la protection maternelle. Hein, de l'œuf, gober un œuf d'un seul coup, comme ça. C'est en fait, c'est revenir peut-être aux bases de l'enfance.
C'est vrai que les œufs, c'est d'ailleurs un très bon ingrédient pour des recettes. D'ailleurs, j'ai déjà lu des recettes à des passants. Et deux mois plus tard, on s'est recroisés et ils m'ont dit « Ah, mais je vous reconnais, c'est vous de la dernière fois qui nous avez lu la recette du cake salé aux olives ». Et donc, ils m'ont dit, nous avons essayé la recette avec votre recette et nous avons beaucoup aimé et peut-être que nous ajouterions un peu plus d'olives. Non. Ah oui, ou deux. Deux dans votre cake. Et donc, la prochaine fois, je relirai cette recette à d'autres passants avec la modification.
Ah ben, on rêve de vous croiser.
Je vous lirai d'autres recettes ou d'autres.
La modification, c'est pas de Perec. Hein.
Oui, c'est vrai. Pas de...
Butor.
Butor, voilà. Mais il y a une injustice quand même. C'est que cette expression, allez vous faire cuire un œuf, qui est quand même péjorative. Alors, franchement, pour quelqu'un qui passe sa vie à étudier les œufs, pourquoi ?
Presque discriminante, j'ajouterais même.
Oui, oui, pour en revenir à notre sujet, oui. Discriminante. Mmh. Et pourquoi on dit ça ? Allez vous faire cuire un œuf ? Parce que c'est tellement facile de se faire cuire un œuf ?
Exactement. Allez vous faire cuire un œuf, vous ne m'intéressez pas. Je veux dire, vos paroles sont aussi futiles que l'action de faire cuire cet œuf qui a été cuit par des hommes et peut-être même par d'autres êtres vivants sur cette planète. Alors, allez-vous-en, vous ne m'intéressez point. Voilà le but de cette expression.
Oui. Mais l'origine, vraiment, pourquoi ne pas dire « aller manger un McDo » Ce qui serait quand même plus connoté, voilà.
Ouais, non. L'œuf, il a cette caractéristique universelle. C'est-à-dire que, qu'importe oui. La culture, si on te dit de te faire cuire un œuf, tu comprendras où est-ce qu'on veut en aller. Alors que si on va dire « allez vous faire couper les cheveux », on aura du mal à saisir où est-ce qu'on cherche à en aller.
Il n'y a rien de futile dans le fait de se faire couper les cheveux.
Ça, je n'en doute pas.
Ah, mais alors, là, je fais un appel à tous les traducteurs et interprètes qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on traduit « allez vous faire cuire un œuf » en anglais, en français, en allemand, en espagnol, enfin en polonais, en russe, dans toutes les autres langues? Peut-être que c'est...
En anglais, c'est malheureusement... voit tout de suite ce que ça peut être.
Non, comment on dit, ou en allemand
En anglais, moi, je pense que ça doit être quelque chose du genre «
pour envoyer quelqu'un, voilà, on dit « fuck off ». Ouais. Oui, donc, c'est pas la même chose. Oui. Donc, « allez vous faire cuire un œuf », ben voilà une autre idée de bouquin. Allez vous faire cuire un œuf.
Dans toutes les langues.
Dans toutes les langues. Mmh. Voilà.
En kirghize.
En kirghize. Ouais. Mais alors, je vais faire une exception. Je vais me faire tatouer sur les fesses, bien sûr.
Va te faire cuire un œuf.
C'est possible? Est-ce que vous tatouez souvent des textes en entier ou c'est plutôt toujours des...
Alors, j'ai quelques dyslexies, donc je me trompe, d'où l'anagramme. Mais si vous voulez le chiffre 9 sur les fesses?
Non, on va te faire cuire un œuf.
Ah oui.
Ah, je pensais aller se faire cuire le chiffre 9. Mmh. Non. Mmh.
Oui, oui, oui. Voilà.
C'est possible.
Georges Perec a fait une définition, parce qu'il faisait aussi des mots croisés. Faire du neuf avec du vieux. Cherchez un peu. Faire du neuf avec du vieux. Nonagénaire. C'est beau, hein? Mmh. Ah, c'est super, la poésie et tout. Bon. Merci Georges Perec, merci les œufs. Et alors, tous ceux qui sont blancs, noirs, jaunes, verts, oh non, pas les verts, hein, quand même pas, mais les rouges et tout, n'ayez pas peur, pour vous, les œufs, c'est toujours pareil, au plat, dur, mimolé, avec un petit peu de sel, comment ça s'appelle ?
De Guérande,
ou alors du piment d'Espelette, ou alors, pareil, j'ai trouvé dans une boucherie bien connue de Strasbourg, et vous l'avez bien connue, du sel parfumé à la truffe. Mmh. Je me suis dit, c'est un gag. Eh ben non, pas du tout, c'est super bon, c'est très très bien.
C'était pas du sel pour les truffes ?
Ah oui,
peut-être,
oui.
Ou pour les poires ?
Oui. Eh bien, ça pourrait être le mot de la fin. En tout cas, vous tous, de toutes les couleurs, on vous aime bien et surtout, on vous a reconnu. Vous l'avez bien connu. C'était l'épisode numéro 6 de « Vous l'avez bien connu ». Noir, c'est noir. Il y a tellement d'espoir. Avec Comme une image, Alicia Roselier, Myriam Nice et David Gondard. À la technique, Thomas Marinelli. On se retrouve tous les mardis à 11h30. And my name is... Ambrose Perrine.